Radio Spirale. Pendant plus d'un an, Catherine Mavrikakis et Nicolas Lévesque ont échangé chaque semaine une correspondance qui n'en était pas vraiment une, où les voix et les idées se confondaient. Un livre en a émergé, « Ce que dit l'écorce », qui porte entre autres sur le corps, la peau, la mort du père. Ils en parlent ici avec Frédéric Bernier. La rencontre avait lieu devant public en février 2014 à la librairie Gallimard.
Bonsoir, donc mon nom est Frédéric Bernier. Je suis très touchée de pouvoir parler avec vous et avec les auteurs, donc Catherine et Nicolas, de ce livre « Ce que dit l'écorce », livre à fleur de peau, qui explore toute l'étendue de ce motif épidermique en interrogeant les diverses déclinaisons métaphoriques, culturelles, sociales, tout autant que psychiques. La carapace ou la couenne imposée par les rôles sociaux, les doublures, fourrures symboliques, la pellicule du rêve, la vulnérabilité, la porosité, la vif d'une enveloppe intime, caressée tantôt avec douceur ou alors tantôt écorchée avec douleur. Alors, je commencerai en lisant un fragment déjà de ce livre qui exprime bien, me semble-t-il, la charge signifiante anthropologique de ce thème de la peau qui est exploré tout au long du livre et qui va déjà nous lancer aussi dans ce jeu de paroles et de voix qu'est le livre aussi. Alors, je cite « Privé du cuir premier, l'homme est un touche-à-tout et un être de jeu, l'animal qui se met dans la peau des autres, le fantôme sous tous les draps, les draperies, les drapeaux, celui qui anime une infinité de doublures. » Il danse autour du feu, déguisé en bison, en mammouth. Il imite, il peint sur les murs de la grotte. C'est l'animal artiste, aux prises avec un excès interne, que son enveloppe hypersensible ne parvient pas à porter seule. Si ses remparts, ses lois, ses objets et son savoir technique lui font penser qu'il se protège des agressions qui viennent de l'extérieur, qu'en est-il de la charge qui provient de l'intérieur de lui-même, de ses traces inconscientes, des tourments de son âme. Il lui faut une surface de projection, une peau de secours, celle de l'être aimé, et plus encore, une matière à peindre, sculpter, graver, un canevas, une page, un écran, une toile de jeu collective, symbolique, partagée. Alors, avant d'évoquer avec vous et avec les auteurs les différentes épaisseurs et doublures, de voir qui sont ces fantômes sous les draps, et ces différentes surfaces de projection et de protection aussi, il me semble qu'il s'impose d'abord d'aborder ce jeu de peau et de voix, justement, entre les deux, ce partage symbolique de la peau d'un livre. Il me semble que, déjà, deux noms sur une page couverture de livre, ça pose la question, justement, de ce partage des voix. Et d'abord, peut-être, pourquoi écrire ensemble un livre sur la peau? Quel est le point de départ de ce projet de livre à quatre mains? Nicolas, Catherine?
Je peux peut-être dire qu'il y a un nom qui apparaît pas sur la couverture, là, qui est André Lamarre, mais qui a fait le livre avec nous, puis qui le mériterait bien. Là, je veux juste te remercier publiquement pour ton travail d'édition de réel éditeur, travail qui se perd de plus en plus, qui est très précieux. Donc, merci. Point de départ, ben, Catherine et moi, on avait déjà travaillé ensemble à Radio Spirale. On savait qu'on ferait d'autres choses ensemble, et puis... pourquoi pas un livre? C'est un peu comme ça que ça a commencé, je pense. Et puis, c'est sûr que le thème de la peau m'intriguait depuis longtemps. C'est un thème psychanalytique assez intéressant, puis littéraire aussi, philosophique. Je me disais qu'il y avait moyen de... On parlait de surface de jeu, là, il y avait pas mal de surface pour s'amuser, je dirais. Donc, ça a commencé comme ça. Je sais pas si tu le raconterais comme ça, Catherine.
Oui, je pense que je le raconterais. Je pense que je le raconterais un petit peu différemment parce que je pense que ça a commencé Oui, je pense qu'on voulait travailler ensemble depuis longtemps. Mais je pense que je t'ai demandé, est-ce que je dois retourner en psychanalyse? Je ne sais pas si tu te rappelles. Parce que j'allais...
oui, j'osais pas ce que tu as dit.
Et tu m'as dit non. tu m'as dit non, il faut que tu peux expérimenter d'autres choses et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, puisque tu me dis que non, peut-être tu vas me dire oui pour autre chose. De toute façon, je n'allais pas aller en psychanalyse avec toi, je ne suis pas folle à ce point-là. Mais je pensais que ça sera intéressant de travailler ensemble. Et puis, que, bon, puis tu me disais, expérimente des choses, fais plein de choses, tu vas aller mieux.
Et puis, ça va?
Ça va. C'est toi qui as eu l'idée de la peau, en fait. Je pense que c'est toi qui as eu l'idée de la peau. Cette idée-là, bon, elle m'angoissait un peu parce que j'avais l'impression que j'avais rien à dire sur la peau. Mais bon, puis j'ai encore cette impression d'ailleurs. Mais ouais. Je pense que c'était l'idée venait de toi. Moi, je pense que je voulais simplement...
Tu as amené la forme, en tout cas, tout de suite, de l'écriture, à peu près 5 pages, double interligne, et puis on s'envoyait ça. Donc...
C'était ça les contraintes au départ? Il y avait quoi comme modus vivendi? C'était quoi la fabrique?
Alors, il y avait une contrainte de temps, c'est qu'on faisait ça pendant un an, contrainte... à laquelle Nicolas a voulu déroger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'a dit « c'est fini ». Je dis « comment ça, c'est fini ?»« Non, c'est pas fini.
» J'en avais assez.
Oui, j'en avais assez. On avait une contrainte, c'était pendant un an. Et puis on avait une contrainte aussi, c'est ça de...
Ben, chaque semaine. Chacun son tour.
C'est ça. Et puis, 2 pages aussi.
Oui, à peu près 5.
3, 5, double interligne.
donc, chaque semaine, vous deviez écrire un texte que vous envoyiez à l'autre et les textes se croisaient, se répondaient. Comment ça s'est passé?
Ça, la contrainte qui a été importante, je pense, au départ, c'est que Catherine ne voulait pas qu'on s'écrive des lettres directement. Salut Nicolas, comment ça va? Et tout ça. Donc, on ne voulait pas avoir une adresse directe. Ça a été important, je pense, dans le travail, c'est-à-dire de s'envoyer vraiment des textes. Puis on se disait, on a le droit d'avoir aucun écho direct au texte de l'autre. En même temps, on savait que l'autre l'avait lu, mais on s'était déculpabilisé comme ça, là. C'est-à-dire que t'es pas obligé de reprendre ce que moi j'ai dit. Donc, des fois, on le reprenait, des fois, non. D'ailleurs, dans le travail avec André, on en a enlevé pas mal des allusions qu'on se faisait à nous deux. On trouvait que c'était un peu, je sais pas, c'était moins intéressant, dans le fond. Donc, mais j'ajouterais peut-être que pour moi aussi, c'était un espace analytique, parce que ce que Catherine dit pas, c'est que moi aussi, je me suis dit que c'était bon que chacun on serve, qu'on se crée un espace intermédiaire, j'aimais l'image Winnicottienne d'André, pour tous les deux, c'est-à-dire que tous les deux, on s'en serve comme un espace analytique, et puis on savait pas d'ailleurs qu'on perdrait nos pères pendant l'écriture, donc ça a été fort utile, je dirais, d'être en analyse écriture pendant ce temps-là, donc ça a été effectivement le cas. Ça a été un espace vraiment pour se déposer. Ça a bien servi.
On reviendra évidemment à cette question des pères qui forment le noyau du livre. Mais je posais la question aussi de la fabrique parce que ça ne va pas forcément de soi. Les noms sont sur la couverture, mais ils ne se trouvent pas à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si ça a été voulu de créer un certain flottement de l'identité des écritures. Bien sûr, on vous reconnaît l'un et l'autre au fil des pages, même si l'alternance n'est pas systématique. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas eu justement une certaine porosité identitaire et cette impression à un moment donné d'écrire non seulement l'un avec l'autre, mais un peu l'un pour l'autre. Et en fait, je pose la question parce que moi, qui était bien certaine chaque fois de pouvoir identifier le grain de la voix, je me suis trompée une fois et ça a semé le doute. Et je me suis dit, peut-être joue-t-il à être l'un et l'autre, entre-t-il dans la peau l'un de l'autre? Je peux vous lire le petit fragment qui a jeté le trouble en moi. J'étais sûre de lire Catherine. Dans la chair de ma chair. Vous voulez que je vous lise? Alors, il y a quelques années, une nuit d'hiver, alors que ma fille était possédée d'une grippe violente qui lui donnait une forte fièvre, je passais des heures dans son lit, à ses côtés, à embrasser son front, à toucher ses joues, ses mains et ses pieds. afin de savoir si la température de son petit corps était en train de monter et de la terrasser. Je faisais bien attention que la chaleur ou le froid de mon propre corps ne viennent pas brouiller mes tentatives de reconnaissance de son bien-être ou de son malaise. J'inventais mille ruses pour que mes lèvres soient suffisamment neutres, suffisamment tempérées, pour que je ne puisse pas mal interpréter les signes que la peau de ma fille lançait désespérément. Donc, moi, j'étais sûre, lisant ça, qu'il s'agissait de Catherine parlant de sa fille.
Et c'est le cas.
Ah! Je vous ai démasqué!
Pourquoi tu as cru que c'était ça?
Tu t'es fait deux fois, avoir deux fois finalement.
Je me suis fait avoir deux fois, mais je me suis fait avoir puisque je l'ai trouvé. Ouais, parce que ensuite, quand même, vous avez tenté de camoufler, donc vous avez effectivement tenté de jouer ce jeu-là.
On s'est amusé avec ça, tout en sachant que, bon, avec le masculin et le féminin, ouais, déjà là, ça tue un peu le jeu, mais...
Oui, mais c'est-à-dire que plus tard, on a des marques, effectivement, des déclinaisons d'adjectifs qui font que l'un
mais ça crée une angoisse chez le lecteur au début des textes. Moi, j'aime bien cette idée-là de qui écrit. Ouais. Et puis, ça montre à quel point on a besoin d'identifier. Et puis, c'est un besoin franchement maladif parce que c'est comme si on ne pouvait pas s'abandonner à un texte comme ça sans identifier l'auteur.
C'est vrai que c'est très difficile, mais ça pose en même temps la question de, justement, de jusqu'où va le pot à pot de l'écriture et jusqu'où l'écriture croisée crée une désidentification.
Oui, puis ça pose aussi la question de est-ce que Nicolas peut parler pour moi? Est-ce que je peux parler pour Nicolas? Et puis la réponse est oui. Voilà, ouais. C'est un peu comme ça quand même. Enfin, pour ce livre-là, je crois qu'il y a quelque chose de commun dans la parole. Il y a une même bouche.
Oui, je peux signer tous ces textes-là, là, sans problème, je les assume. Mais je dirais aussi qu'il fallait aussi quand même que... parce que Catherine a une palette d'écriture plus large que la mienne, donc tu pouvais être poreuse dans ce style d'écriture-là avec moi. Donc ça, c'est sûr que tu as été plus poreuse que moi, puis je t'en remercie. Parce que c'est sûr que j'étais un peu plus dans ma zone de confort, peut-être, là, dans ce type d'écriture-là, qui est mi-essai, mi-récit. Donc il y a eu aussi dans le style d'écriture quand même une certaine porosité, ouais, je dirais.
Évidemment, avec la peau, il y a une sorte de parti pris pour la surface, la superficie, voire une certaine superficialité qui s'oppose, il me semble, à une certaine idée hein, de la grandeur, de la grande pensée, de la profondeur, de la grande réflexion. Parce qu'on pense chaque fois à partir de l'intime, du bios, de l'anecdotique, des percepts et des affects plutôt que des concepts aussi. J'avais l'impression que là, il y avait vraiment quelque chose qui s'incarnait. Et André en parlait tout à l'heure pour la collection, cette volonté-là de mettre en acte des formes essayistiques singulières. Mais il me semble qu'avec ce thème-là de la peau, il y avait vraiment quelque chose qui s'incarne d'une conception de l'essai, de la pensée au plus proche du corps.
Oui. Ben, je peux y aller en premier, mais certainement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... Il y a une connivence philosophique, évidemment, avec Catherine, puis avec toi aussi, d'ailleurs, sur cette idée que la peau, c'est quand même une interface, on pourrait dire. Puis c'est un peu... ça a été un choc dans la philosophie quand Nietzsche a dit qu'il fallait être superficiel par profondeur. Puis c'est un peu pour dire qu'il n'y a pas de derrière, hein, il n'y a pas de... Il y a que la surface. Et donc, à la limite, éventuellement, il n'y a que le langage. Ou en tout cas, ça a mené une philosophie du langage aussi. Et je pense que pour des, je sais pas, des écrivains, c'est un sujet intéressant, que le monde, que le langage en soi est un monde, que la peau en soi est un monde, elle n'est pas qu'une frontière entre un dedans et un dehors. Là. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se sont amusés avec ça, là, je pense à... Ouais, il y a Barthes, mais il y en a d'autres là, qui... Puis je pense que c'est... Oui, il y a certains... Oui, les plis. C'est certain qu'on est tout à fait dans cette famille Didier Huberman. Ou, en tout cas, il y en a beaucoup qui se sont amusés un peu avec cette idée, ouais. La surface.
Je ne peux pas mieux dire.
Il y a aussi une certaine manière, bon, d'articuler, évidemment, tu viens de le dire, le dedans et le dehors, l'intime et le social, l'insignifiant, le grave. Et j'étais frappée, Catherine, la façon dont tu arrives à parler d'un rapport au monde à partir de ta relation aux vêtements, aux fonds de teint, au maquillage, en faisant de ces motifs, peut-être par excellence, de ce qu'on peut voir comme une superficialité, d'une certaine féminité aussi. l'indice, ça devient vraiment le lieu d'exploration d'un être au monde, d'une porosité psychique. Tu parlais de Catherine, plus poreuse que toi. On pourra venir à cette diade-là. Mais il me semble qu'il y a quelque chose aussi d'une sorte, dans ce livre-là, d'une sorte de manuel de survie ou de manière de prendre soin de soi et des autres aussi, qui se dit à travers ces façons d'user des vêtements, du maquillage, des rêves, des souvenirs.
Des soins de la peau.
Des soins de la peau, voilà. Non pas cosmétiques, mais ontologiques peut-être. Une manière de tapisser le psychisme d'une sorte de surface protectrice.
Il y avait un titre qui nous tentait pour le livre, c'était un titre qui aurait comportait le mot écorché, mais on l'a gardé dans écorce, mais il y avait l'idée d'écorcher parce que, bon, je vais parler pour moi, Nicolas verra ce qu'il a un peu ce qu'il peut y avoir de commun là, mais moi j'ai toujours eu l'impression, je le dis dans le texte, j'ai toujours l'impression d'avoir été complètement écorché, de ne pas avoir eu de peau. Et c'est vrai que pour moi, les surfaces, les étoffes, le maquillage, les livres même comme surface, même les maisons, les lieux, j'ai besoin de surface enrobante ou de parole enrobante. C'est-à-dire j'ai besoin que quelqu'un, par sa parole, arrive à me tenir, à me contenir. C'est peut-être ça aussi d'ailleurs ce qui s'est passé dans le livre. C'est-à-dire qu'il y avait une peau qu'on était en train de créer ensemble pour se contenir dans le deuil aussi. Et donc, pour moi, la peau était conçue comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui me sert de peau, en fait? Alors, quels sont les objets ou les choses qui me servent de peau, ou les gens qui me servent de peau, parce qu'il y a des gens aussi. Et c'est là j'ai parlé de mes rêves, parce que mes rêves, pour moi, ce sont des peaux, mais voilà.
Il me semble qu'il y a quelque chose comme une sorte d'éthique aussi du soin chez Nicolas. Évidemment, tu évoques ta pratique, ta pratique clinique qui revient beaucoup.
Oui, ben il y a les soins de plusieurs peaux, en fait. Hein. Il y a la peau, je dirais l'autre, en fait. Il y a la sienne propre. Puis aussi la peau, je dirais, imaginaire. C'est-à-dire, on pourrait presque dire que le psychisme au complet, c'est une peau intériorisée, d'une certaine façon. C'est comme si on se recrée une peau intérieure, et puis il faut en prendre soin, justement. Puis, dans toutes les espèces de choses qu'on entend là, sur les personnalités borderline ou état limite, c'est très à la mode. Je pense qu'on peut dire ce que souvent, d'ailleurs, il y a des pratiques d'automutilation, il y a beaucoup de choses qui se passent avec, je dirais, la loi, tout ce qui est l'intermédiaire, tout ce qui est l'interface, qui sont en jeu de façon plus concrète. Puis des fois, on se dit, c'est peut-être parce que, justement, au niveau de l'intériorisation d'une certaine peau, il y a quelque chose où... qui est plus difficile, justement, qui doit se passer avec une peau externe. Puis donc, je dirais que dans les soins de la peau, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce qu'on la sent en nous, jusqu'à quel point on a besoin de la peau de l'autre. Donc, il y a plusieurs types de peau. Chacun, notre personnalité, c'est peut-être un peu... Il y en a qui dépendent beaucoup de la peau intérieure, peut-être trop. Il y en a qui dépendent peut-être trop de la peau extérieure. Puis je dirais qu'on se trouve tous un peu dans ces jeux-là, dans plusieurs peaux.
Mais je vais peut-être rajouter quelque chose, c'est que en parlant, on a peut-être, c'est notre imaginaire commun peut-être, de penser que nous prenons soin de beaucoup de gens. Moi, pas du tout comme de la même façon, j'ai pas une famille aussi nombreuse que Nicolas, mais je veux dire, on a eu l'impression, je parlais de prendre soin de soi, mais c'est vrai que peut-être dans notre imaginaire, je dis pas que c'est vrai, parce que peut-être qu'on le fait pas du tout bien.
Ça se peut.
Mais je veux dire, on a déjà parlé de ça, qu'on avait l'impression de s'occuper de corps et d'âme, et c'était pas du tout pour nous plaindre, mais c'était un peu peut-être notre fonction dans nos familles, et c'est quelque chose que, c'est peut-être pour ça qu'on s'est retrouvé dans ce texte, à prendre soin l'un de l'autre, mais sans nous, parce qu'on se rencontre pas beaucoup, Nicolas et moi, faut pas croire qu'on est très copains, faut pas croire qu'on a déjà pris une bière ensemble, on n'a jamais pris de bière ensemble. Mais c'est pas de cet ordre-là.
Non.
C'est pas de cet ordre-là. C'est de l'ordre de l'écriture, c'est de l'ordre du silence aussi.
Oui.
Ben, j'aimerais bien revenir justement sur ce qu'on a déjà évoqué, de ce qui vous, d'une certaine manière, de la façon dont vous vous répondez peut-être en miroir dans ce texte-là, puisque ce que dit l'écorce, c'est un peu comment nous nous, à la fois comment nous nous exposons et comment nous nous protégeons. Et il y a vraiment cette dialectique exposition-protection qui structure le livre, qui se renverse à l'intérieur même de chacun des textes et chez chacun d'entre vous. Mais il me semble que quand même, vous vous répondez en miroir. Hein? Tu l'as dit, là où Catherine, l'écorché, se cherche des doublures, des peaux protectrices. Nicolas, ce qui revient souvent, c'est plutôt chercher à se dépouiller des costumes, des rôles, de ce qui risque de te coller à la peau. Donc, est-ce que cette complémentarité ou ce miroir-là, il était conscient ou il s'est décliné au fil des textes, il s'est dessiné?
Non, c'était pas joué ou voulu. Je pense que ça nous ressemble, en tout cas. Donc, oui, je pense que j'essaie effectivement... d'ailleurs, à chaque livre que j'écris, j'enlève une couche, donc le prochain, c'est un peu inquiétant. Je sais pas trop ce qui va arriver. Ce sera pas publiable. Mais c'est, oui, effectivement, je me sens... puis tu faisais un parallèle dans un courriel de « Tant qu'à tout dire », on va tout dire, entre, justement, nos héritages respectifs, à moi et Catherine, des costumes de ta mère par rapport à mon père qui a défroqué, justement, qui a enlevé une couche. Oui, je dirais que il m'a transmis ça, ce bel héritage qui est aussi compliqué. Donc, oui, je suis là-dedans.
Mais peut-être qu'on peut en parler alors de cette question-là de l'héritage. En fait, c'est ce qui fait le cœur du livre, je pense, et qui s'annonce en fait dès l'exergue, très très belle exergue de Rilke. Que je lis, car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. Donc, il y a peut-être que ce qui se trouve exposé et protégé en même temps, recueilli par ce livre-là, ce qui en constitue donc vraiment le cœur, c'est la mort du père, la mort des pères, en fait, et le corps de ces pères morts qui se trouvent donc vraiment à occuper littéralement le noyau du livre. On a l'impression qu'il s'agit en fait d'incarner, de penser au double sens un deuil. Est-ce que ces morts sont survenues en cours de d'écriture, c'était pas un livre qui a été conçu pour accueillir ça. C'est venu comme en cours de route.
Oui, ben on avait commencé à écrire en janvier. Mon père décédait en mars de cette année-là. Puis Catherine, je crois que c'est 3-4 mois plus tard à peu près,
en octobre.
Donc un peu plus même. Donc ouais, ça c'est arrivé vraiment pendant l'écriture. Ouais.
Et est-ce que pour vous, ça devient comme une sorte de livre tombeau? On parle souvent des tombeaux. Est-ce que le terme le tombeau, c'est trop rigide ou est-ce que ça fonctionne comme ça pour vous?
Oui, complètement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul tombeau. Pour le père, il en faut plusieurs. c'est que j'ai l'impression que c'est...
Parce que les spectres reviennent.
Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est le premier... C'est un tombeau. En tout cas, je le sens comme ça. C'est un tombeau du père, il y en aura. C'est comme une menace presque, il y en aura d'autres. mais je crois que ça se fait comme ça aussi parce que... Mais ce qui a été peut-être très étonnant pour moi, c'était de... pour nous deux, je crois aussi, là-dessus, c'était de voir combien le corps, ou les corps de nos pères, le corps de nos ben, je ne sais pas comment je vais mettre ça au pluriel singulier, mais disons, le corps des pères, les corps des pères étaient présents dans nos vies, alors que, bon, on a beaucoup l'idée que les pères sont pas très charnels, mais ou pas très incarnés, ou que c'est la loi du père, ou que c'est il y a une transcendance du père qui, alors que là vraiment on a fait l'expérience du corps du père et du corps du père mourant tous les deux en même temps, alors
Oui, tout à fait. Puis c'est comme si la vie était étrangement en résonance avec notre pensée et notre philosophie, parce qu'au fond, évidemment qu'on n'allait pas faire un livre sur la peau à la base en faisant juste un livre maternel. Ou, déjà, les deux, je pense qu'intellectuellement, on n'était pas très de ce côté-là. Là. Je pense qu'on aime bien mélanger les cartes là-dessus. Puis là, la réalité a mélangé les cartes pour nous, d'une certaine façon. Il y a même, je dirais, une métaphore encore plus vaste, si on veut, de la mort des pères en Occident, je dirais presque, on est là-dedans au niveau symbolique aussi. Il y a beaucoup de liens, je trouve, entre le singulier et le général dans notre livre. Ça nous est arrivé à nos pères en particulier, là, mais je pense qu'on parlait aussi d'une certaine façon de la mort des pères et puis de qu'est-ce qui en découle aussi du rapport au corps, en fait, de façon générale, là, pas juste au sens particulier. Puis ça, c'est... ouais, c'est quelque chose qui est intéressant. Le fait qu'on les ait mis dans le centre du livre aussi, ça, la fonction tombeau et même, je dirais, physique dans le livre. Ils sont cachés dans le milieu.
Je voulais revenir sur ces motifs-là que tu as évoqués et qui venaient de mon courriel. ce qui m'a frappée, c'est justement l'impression d'avoir affaire à deux motifs fondateurs de vos destins, de vos manières d'hériter. Nicolas, dans ce très, très beau texte qui est justement au cœur du livre, qui s'intitule « Le corps du philosophe », tu parles, évidemment, il est question de Claude Lévesque, ici, qui a été mon professeur, d'ailleurs, et le tien aussi, je pense aussi. Et tu parles de ce moment où ton père a défroqué, donc où il a quitté les ordres, quitté les oripeaux du christianisme pour embrasser la vie amoureuse et rendre ta naissance possible. Mais c'est aussi le moment où il a embrassé une certaine philosophie. Avec des penseurs qui ont justement voulu penser le corps, le sexuel, le féminin. Ouais. Et donc, tu situes ce geste de défroquer du père, comme tu en parles comme d'une première naissance, d'avant ta naissance, comme si c'était là que non seulement ta vie avait été rendue possible, mais aussi ce qui rend possible ta pensée et ce livre-là, d'une certaine manière.
Oui, ben d'ailleurs, c'est on s'attend pas à... On est toujours surpris par le deuil, c'est ce qui me fascine. Tu sais, ce qui est arrivé avec le deuil de mon père, c'est pas ce que je pensais qu'elle allait arriver. C'est-à-dire que ce qui était nouveau pour moi, ça a été... C'est comme si je m'étais donné le droit d'aller voir du côté de l'héritage religieux de mon père, ce que je m'étais jamais donné le droit de faire de son vivant, parce que lui-même n'était pas très à l'aise avec ça, et je pense qu'il voulait mettre ça derrière lui. Mais en revoyant les photos de lui, dominicain, bon, c'est quand même... ça frappe. Pas juste ça, je me suis rendu compte aussi, ça donne tout un nouvel éclairage aussi à où est-ce qu'on en est. Je trouve ça intéressant qu'au Québec, il y ait en 2014 une réflexion sur l'héritage religieux dans ce sens-là. Je pense que même dans la pensée de mon père ou la pensée de Nietzsche, je pense que les gens qui ne savent pas lire Nietzsche, par exemple, vont penser que c'est seulement une sorte d'anti-christianisme, par exemple. Puis alors qu'il y a tout un sens du sacré, que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas grand-chose. Je pense à la déconstruction en général ou même à Nietzsche ou à des auteurs ou d'autres, là, comme Derrida. C'est que c'est pas, en fait, un rejet complet. C'est pas, ça a été mal compris, en fait, cette révolution-là. C'est-à-dire que c'est passé peut-être de la religion au sacré, je dirais, même si c'est des termes extrêmement compliqués, mais je dirais ça comme ça, c'est-à-dire que je pense que comment on a hérité de la religion au Québec, puis j'aurai l'occasion d'en reparler au sujet de la charte dans quelques semaines, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier tout ce qui est de l'ordre du dehors, hein. On a peut-être mal compris comment il fallait faire le deuil de la religion, justement, en tout cas. Fait que ça fait partie des enjeux de ce livre-là aussi pour moi, là.
De la filiation avec ton père, comment hériter du religieux et de sa déconstruction.
Qui a transformé son rapport au sacré, au fond, et non pas, il ne l'a pas nié ou jeté aux poubelles. Pour moi, c'est important dans la compréhension de la vie de mon père, mais aussi de la vie du Québec, là, d'une certaine façon. Fait que, je dirais ça.
Et ce père qui défroque d'un côté et de l'autre, il me semblait que le motif fondateur qui se dit plutôt au début, c'est les vêtements impeccables de la mère de Catherine, hein, qui répondait comme une sorte d'écho et dont tu dis dès le départ qu'il caractérisait justement ton rapport à ta mère et le peu de proximité aussi, alors qu'avec le père, le corps est très présent, avec la mère, il y a quelque chose là qui se décide d'une absence de peau, de toucher, d'un besoin de doublure.
Oui, mais il y avait une très grande fascination chez moi pour ma mère quand j'étais enfant, ça c'est sûr que fascination... je me suis pas complètement remis, je pensais au père de Nicolas parce que Claude a quand même été un père spirituel pour moi, et le mot spirituel renvoie aussi au religieux là-dedans, mais le père de Nicolas a été important pour, en fait, le geste de défroquer qui a fait ton père a été important pour une génération, en tout cas la mienne, parce que ton père a pu, justement, dans ce recyclage du religieux en autre chose, ou dans cette transformation du religieux dans sa pensée, a pu nous permettre à des gens de mon âge, et puis un peu plus jeunes, comme Frédéric, de créer un lien alors qu'on croyait que ça s'était complètement détruit avec le passé. Donc, je crois que ton père a été très important. Moi, j'avais l'impression que la fonction paternelle dans la famille, c'était quand même ma mère. Ma mère, sa voix, c'est très important. Mon père, c'était la mère dans la famille, c'était pas comme ça, et j'avais toujours un problème avec les pères, mais donc avec ma mère, et donc je pense que j'ai enlevé les passages où je parlais de ton père dans le livre parce que je voulais que ça soit le père de Nicolas, et j'ai un frère qui s'appelle Nicolas, la fonction de Claude Lévesque comme père, bon, alors je pense que chez Nicolas c'est ça, c'est son père réel, c'est son père biologique, mais c'est aussi un père pour beaucoup de gens, et ça a dû jouer aussi dans notre écriture, parce que je pense que c'est pas pour rendre hommage à Claude, mais il a été important pour beaucoup de littéraires, en fait. Peut-être encore plus que pour des philosophes, parce que la philosophie au Québec a refusé cet héritage du sacré, de la pensée qui est capable de psychanalytique aussi, alors que chez les littéraires, Claude a eu, il a fait entendre sa voix, ça c'est sûr.
Oui.
Ben, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais particulièrement touchée de pouvoir aujourd'hui parler de ce livre avec vous, moi dont justement la rencontre avec Claude Lévesque a été pour moi absolument déterminant. Donc, on est vraiment, vous le voyez, sur un terrain à la fois très, très intime, mais c'est aussi un livre qui explore le politique, le social. Peut-être que c'est le dernier motif que j'évoquerai avec vous pour laisser du temps à la salle pour des questions. Mais dans ce motif, à travers ce motif de la peau, donc on l'a entendu, il se décline de diverses manières. Mais il y a, il me semble aussi, une certaine lecture de notre époque, de notre contemporanéité. Et il me semble que là, vous vous rejoignez totalement, c'est-à-dire considérer que notre époque ou notre monde, c'est un peu celui des écorchés, d'une violence, de la mise à nu. Tu parles à plusieurs reprises, Catherine, de ce motif-là, de l'écorché comme t'étant propre et intime, mais tu en fais aussi donc une lecture plus sociale à partir notamment de l'exposition Body Worlds de Gunther von Hagens, qui montrait des corps plastinés et qui les offrait en pâture à notre pulsion scopique. Et il y a un très, très beau passage là-dessus que je voudrais lire. sur donc cette époque des écorchés. La pratique de l'autopsie est celle plus récente de la radiographie, de l'échographie, de l'imagerie par résonance magnétique, de l'endoscopie. On sans relâche et avec succès désacraliser le corps. On rejoint la question du sacré, au profit du savoir du médecin et du regard scientifique, voire plus récemment du regard simplement curieux, qui fait des morts des objets d'exposition perpétuelle soumis à notre violente volonté de savoir. La peau n'était plus qu'un obstacle à éliminer, devenu négligeable pour aller vers les secrets à dévoiler de l'organisme humain. L'écorché, mort ou vif, fait partie de notre imaginaire de moderne savant, progressiste et rationnel.
Oui, je pense que nous avons cette idée qu'il faut enlever la peau pour voir qu'il y a quelque chose qui se place, qui est là sous la peau et qu'il y aurait une vérité de l'humain qui apparaîtrait comme ça. Or, notre livre, justement, c'est écrit contre cette idée-là, c'est-à-dire pour nous, tout est à la surface et tout doit rester à la surface. Peut-être aussi, j'allais dire, ce qui nous intéresse, c'est le glissement, c'est le lapsus, c'est comment ça bouge dans la surface. Mais je crois qu'il y a un fantasme comme ça de nudité, presque. Je crois qu'il y a un fantasme de nudité. Et puis j'ai parlé aussi parce que je parlais de Rick Gervais, le garçon qui est tatoué. Bon, et lui, alors,
il tatoue
l'intérieur comme ça. Mm-hmm. Bon, moi, je pense qu'il se maquille, mais je pense que c'est un maquillage, en fait. Je pense qu'il est très habile, comme ça, on n'ira pas voir à l'intérieur. Mais je me dis, on a cette idée-là, et je me demande si c'est pas... C'est une façon très importante de penser le savoir en ce moment, contre laquelle je crois il faudrait contre laquelle il faut aller. En tout cas, il faut s'en méfier parce que bon, je vais aller voir quand même l'exposition de ces écorchés là.
Qui étaient d'ailleurs des prisonniers chinois dont les corps
c'est
une histoire quand même assez sordide.
Complètement. Et ce qui est assez terrible, en fait, c'est comment ça... ça m'est très familier. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout été choquée par cette exposition qui aurait dû me choquer. C'est que je suis complètement anesthésiée. On voit ça comme si c'était autre chose. C'est ça qui est... Enfin, il faut faire un effort pour détester ça. Je suis capable, mais...
Ouais. Nicolas, tu parles aussi de ce monde sans protection qui est le nôtre.
Je peux peut-être enchaîner, faire un gros détour, mais il va y avoir un lien. Je sais pas, j'ai vu Pierre Lefebvre qui est là, puis on était au Forum national sur les arts littéraires la semaine passée. Puis là-bas aussi, j'ai fait un lien entre ce que tu disais, là, puis notre livre, et puis l'aspect politique de la peau. C'est-à-dire que ce monde sans protection, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus à droite que d'être contre les couches, c'est-à-dire que d'être contre les intermédiaires, en fait. Hein. Puis bon, évidemment, contre les fonctionnaires éventuellement. Mais c'est il y a comme un lien entre... Je me disais que quand même, par exemple, avec tout ce qui se passe, on est dans une librairie, pourquoi pas faire un lien sur l'importance des intermédiaires, c'est-à-dire les libraires, tout ce qui est menacé actuellement, là, c'est-à-dire les éditeurs, les libraires, tout ce qui est entre l'auteur et... son public fusionnel. Il y a quelque chose là qu'il faut revaloriser, je pense, même si on pourrait critiquer, là, évidemment, comment les intermédiaires sont devenus lourds. Là, mais c'est juste une vision un peu politique de... ça prend plusieurs couches pour avoir une vie humaine, je dirais, qui a un certain sens, qui n'est pas tout de suite un pot à pot là, sans protection. Évidemment, l'autre danger, c'est que quand on met plein de couches, finalement, ça finit par être tellement étanche que là, c'est le problème des bureaucraties, puis peut-être c'est là qu'il y a des guerres, en tout cas. Mais j'exagère un peu, mais quand même, il y a tout un mécanisme où il faut plusieurs couches, plusieurs intermédiaires. On pourrait dire que la pensée, c'est ça, d'ailleurs. C'est circuler à travers plusieurs couches. Mais en même temps, c'est ça, il faut veiller à ce que chacune de ces couches-là, comme par exemple un état, c'est un bon exemple, là, c'est quand même une sorte de couche, soit quand même dans la porosité aussi, avec le réel, avec le peuple. On peut s'amuser comme on veut avec ça, mais c'est juste pour dire qu'il y a vraiment un aspect extrêmement politique à comment on prend soin de chaque couche. Puis qu'il en faut plusieurs, en fait.
Ouais. Évidemment, la question du dévoilement est particulièrement d'actualité. J'ai l'impression qu'il y avait chez vous, pourtant dans un livre, vous vous exposez beaucoup, vous vous mettez en jeu, mais il y a quelque chose comme une éthique du voile, hein, une sorte d'éloge du voile, ou en tout cas d'un certain voilement, dévoilement, qui répond à cet impératif de transparence à tout prix qu'on entend beaucoup.
Ben oui, tout à fait. Ben c'est ça, on est vraiment dans une espèce de folie de « il faut tout enlever les couches », ce qui est évidemment un backlash de « il faut jamais en enlever », ce qui était la philosophie d'avant. Mais je pense qu'il y a un danger, puis c'est pas être réactionnaire que de dire ça, au contraire. T'sais, je pense qu'il faut... Il y a un niveau au-delà duquel, si on n'a pas une certaine protection, on se brûle, ou on a des coups de soleil, ou en tout cas, la peau elle-même, c'est pas une couche, hein, c'est plusieurs couches, la peau. Donc, si on n'a pas d'épiderme, on est fait comme être humain. Et je pense que dans ce terme de société aussi, on a besoin de ça. Par exemple, qu'est-ce que les jeunes voient sur Internet, ou tout ça. On sent qu'il y a plein de filtres qui manquent. Là. Et je pense que c'est la peau peut être une métaphore extrêmement politique. Tout à fait.
Mais... La question du dévoilement, tu touches à ce qu'est l'écriture pour moi, c'est-à-dire l'écriture pour moi est un dévoilement mais qui en même temps cache, c'est-à-dire on ne peut se dévoiler, c'est se cacher. Pour moi, c'est pas possible, c'est-à-dire que tout n'est pas vrai, tout n'est pas tout à fait comme ça, le dire... Et pourtant, il y a un souci de vérité, hein. Je pense qu'on a été dans un souci de vérité, mais... À travers cette vérité, on a pu cacher des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas dites, il y a des choses qu'on a déplacées, il y a des choses qu'on a censurées. Et puis, c'était peut-être un peu pour ça qu'on prenait deux voix et puis on les mettait ensemble parce que, bon, on ne voulait pas nécessairement qu'on nous voie comme ça d'emblée. Je vois l'écriture, c'est pas non plus que l'écriture est mascarade, c'est pas ça du tout, mais l'écriture est à la fois dévoilement et à la fois mascarade aussi, c'est-à-dire qu'on peut pas avancer complètement nu en écrivant, ça c'est sûr, parce que le choix des mots, parce que bon, on réécrit, il y a des choses qui marchent pas, André arrive, il nous dit c'est pas comme ça, ou il nous dit c'est comme ça, non mais il y a tout un travail, là aussi, là c'était très précieux pour nous le travail d'André, parce que il y a justement la première couche, il nous disait bon, est-ce que c'est là vous êtes allé trop loin, vous dites trop, ça peut être, il y a tout un travail comme ça de masquage qui a été important, je crois.
Nous, on travaillait le livre comme une peau magique. Tu parles d'une peau magique qui, à la fois, dévoilerait, exposerait, protégerait.
Oui, bien, une des choses qui a sauté, je pense, c'est je m'étais perdu un peu dans la peau de chagrin de Balzac. Je pense que c'est cette image-là d'une peau qui, à la fois... On parle toujours de la peau qui rétrécit, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la peau magique. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui rentre dans, une librairie ou un antiquaire, peut-être plus un antiquaire, et puis qui voit quand même une peau magique. Puis on oublie toujours de... Ou en tout cas, pas toujours, mais souvent de mentionner ça. Puis ça me semble assez symptomatique de où est-ce qu'on en est. C'est qu'on s'inquiète tout le temps de tout ce qui disparaît puis rétrécit, mais on oublie de penser aussi à la littérature ou en tout cas à la culture comme étant une sorte de magie. T'sais, quand même, c'est quelque chose qui peut amener complètement ailleurs. Donc, je ne sais plus du tout pourquoi je parle de ça, mais ce n'est pas grave.
C'est sans doute pour inviter les gens à découvrir ce livre qui fonctionnera peut-être pour vous comme une peau magique. Alors, peut-être que c'est le moment où justement des gens veulent réagir dans la salle. Peut-être des gens vous ont déjà lu ou ont-ils des questions à poser à partir des échanges qu'on a eus. Je vois pas jusqu'au fond. Est-ce qu'il y a des gens qui s'agitent derrière? Sinon, s'il n'y a pas de questions, ben on va en rester là et on va pouvoir continuer nos échanges autour des livres ici chez Gallimard. Ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Nicolas, merci Catherine.
Merci à toi, Frédéric.
Merci.